Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Hier à Londres, lors du sommet franco-britannique, Emmanuel Macron a confirmé à la première ministre britannique Theresa May le prêt au Royaume-Uni de la célèbre tapisserie de Bayeux. Alors cette tapisserie, elle l'offre le visage de Guillaume le Conquérant, lequel conquiert l'Angleterre dont il deviendra roi. Et l'annonce de ce prêt est intervenue au moment où Emmanuel Macron tente de convaincre la Grande-Bretagne d'augmenter sa contribution financière au contrôle de la frontière à Calais. Bonjour Alexandre Caseroni. Vous êtes politologue, alors est-ce que l'on peut dire que l'on échange la tapisserie de Bayeux contre un nouvel aménagement des règles sur les migrants ?
Bonjour Guillaume Erner. Alors oui, ce prêt qui est consenti pour vers 2020-2023, il accompagne non seulement la question du contrôle à la frontière au niveau de la ville de Calais, mais également des accords sur le nucléaire d'une part et des accords de défense et de sécurité de manière plus large.
Donc ça n'est vraiment pas un prêt gratuit, si j'ose dire.
Non, ça accompagne quelque chose qui est beaucoup plus important, qui est le nucléaire d'une part, et puis la défense et la sécurité d'autre part.
Et c'est fréquent ?
Oui, parce que on a à peu près le même schéma que par exemple pour le Louvre Abu Dhabi.
C'est-à-dire ?
Le Louvre Abu Dhabi, on avait en lien avec ce projet la création d'une base militaire à Abu Dhabi. Et d'autre part, la France comptait beaucoup obtenir le contrat sur les centrales nucléaires que souhaitait Abu Dhabi et qui a été malheureusement perdu en 2009. Et à chaque fois, on a un projet culturel qui occupe le devant de la scène dans les médias, mais qui cache en fait en réalité des contrats beaucoup plus importants au niveau économique, qui, pour le nucléaire à Abu Dhabi, représentait 20 milliards de dollars. C'est les Coréens qui l'ont obtenu. Et là, la centrale nucléaire de Hinkley Point, qui est un projet d'environ 18 milliards de livres sterling.
Et est-ce que la France a d'autres intérêts à prêter ses œuvres d'art? Parce que on est aussi sous le coup d'un certain nombre de polémiques liées aux restitutions d'œuvres d'art, Alexandre.
Oui, un des facteurs en fait qui pousse la France à faire circuler aujourd'hui ses œuvres, c'est de répondre à la pression des demandes de restitution. Et il y a une date importante, c'est décembre 2002. Le Louvre, via sa présidence, Henri Loirette, avait signé la déclaration sur la valeur et l'importance des musées universels. Et en fait, cette déclaration n'a aucune valeur juridique. Elle n'a été signée que par des directeurs de musées. Il n'y a pas de cadre international. Et il s'agit en fait de dire aux pays, aux individus qui demandent les restitutions, ces objets ne nous appartiennent pas, nous n'en sommes que les gardiens et nous allons les faire circuler. Et c'est ce schéma-là qu'on a vu se déployer un peu à Abu Dhabi et beaucoup avec les propositions du président Macron pour l'Afrique.
Justement, la France a-t-elle une politique spécifique à cet égard ?
Oui, la position de la France est différente de celle des États-Unis, notamment aujourd'hui, parce que l'aspect marchandisation de la culture est beaucoup plus faible du côté français. Le modèle Guggenheim, c'est-à-dire transformer un musée en une multinationale et ouvrir des franchises, a trouvé très peu de prise sur le territoire français, dans les politiques publiques françaises à l'international. Ce qui s'en rapproche le plus, c'est le centre Pompidou à Shanghai. Mais le Louvre à Abu Dhabi, où évidemment ce prêt dont on parle aujourd'hui, ne relève absolument pas de cette marchandisation de la culture. Il rappelle davantage un modèle assez classique qui avait été incarné par Malraux lorsqu'il avait prêté la Joconde en 1963 aux États-Unis. Ou alors, plus récemment, on a vu un cas qui se rapproche le plus dans un passé récent du prêt de la tapisserie de Bayeux. C'est le prêt du cylindre de Cyrus par le British Museum à l'Iran. Ce cylindre de Cyrus, c'est un sceau du 5e siècle qui a une valeur très grande pour l'historiographie iranienne et qui est la propriété du British Museum. Et en 2010, le British Museum avait consenti à le prêter et c'est une exposition qui avait suscité un grand intérêt du public. Il y avait 500 000 visiteurs à Téhéran.
Et les pandas, parce que on aime beaucoup cet animal, on a beaucoup parlé de pandas. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler, par exemple, d'une diplomatie du panda ?
Alors, la diplomatie du panda, ça sera proche de cette diplomatie classique, des prêts qui permettent d'affirmer un prestige. Et en France, on avait également été les récipiendaires, les bénéficiaires de la diplomatie égyptienne, de la girafe.
La girafe.
Oui, la girafe de Charles X.
C'est compliqué à déplacer, hein, une girafe.
Oui, mais Mehmet Ali avait offert une girafe qui était arrivée à Paris sous Charles X. Et si on remonte plus loin dans le temps, ces mêmes souverains égyptiens, en l'occurrence c'était au 15e siècle, un sultan mamelouk, avait offert une girafe aux Médicis.
Et alors aujourd'hui avec le Louvre Abu Dhabi. Donc on voit bien que on a effectivement une diplomatie qui fonctionne. Est-ce qu'elle va nous apporter des intérêts véritables et tangibles, Alexandre Caseroni?
Mais pour comprendre les intérêts, l'influence, c'est-à-dire tous ces mots vagues qu'on déploie autour de ces projets culturels, faut à chaque fois voir la redondance. La redondance, c'est que certes la France a une grande expertise culturelle, mais derrière à chaque fois on voit que là où est la puissance française, c'est dans deux domaines, c'est le nucléaire et en fait le militaire. Que ce soit à Abu Dhabi ou dans cette journée franco-britannique, on voit que ce qui compte, ce qui pèse vraiment derrière le bruit médiatique, c'est l'importance nucléaire et militaire de la France. La France, c'est une puissance militaire.
Peut-être qu'il
y a on l'oublie trop souvent en ne se focalisant que sur le Louvre, les aspects culturels et artistiques.
Bon, alors peut-être qu'il y a aussi un message subliminal dans la tapisserie de Bayeux, puisqu'on a quand même Guillaume le Conquérant qui va en Angleterre conquérir ce pays. C'est une forme de contre-Brexit.
Oui, c'est de rappeler à l'Angleterre que son histoire est fortement liée au continent. Et d'autre part, que la sécurité de l'Angleterre est lié à la stabilité et à la sécurité de la France. Cette invasion normande de l'Angleterre, elle rappelle aux Britanniques qu'ils ne sont pas sur une île, ils sont sur une île, sur des îles certes, mais que leur sécurité dépend de ce qui se passe sur le territoire français.
Tout le contraire de faire tapisserie. Merci Alexandre Caseroni. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le miroir d'échec, musée et politique dans les principautés du Golfe Persique. C'est aux presses universitaires de France.